Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h21 et ce soir dans votre grand débat sur Europe 1, on va tenter de faire tomber des barrières, ces verrous qui, à tous les stades de notre vie, dès l'enfance parfois, nous bloquent, nous empêchent d'avancer, nous angoissent parfois, au moment de répondre aux questions d'un prof, de faire une déclaration d'amour lors d'un entretien d'embauche ou quand on veut proposer un projet à son patron. Il y a tellement de moments dans la vie où l'on aimerait être comme ces politiques, ces comédiens ou ces avocats qui maîtrisent l'art de l'éloquence. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, vous allez y arriver, vous aussi, parce que l'éloquence, ça s'apprend et mes invités sont là pour vous le prouver. Autour de moi, Martine Guillot, comédienne et coach qui vient de publier « Vous allez adorer prendre la parole » aux éditions Robert Laffont, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également directeur pédagogique de cette école et professeur d'art oratoire. Et Bertrand Perrier, avocat et formateur au sein du programme Eloquentia. Vous avez notamment écrit « La parole est un sport de combat », c'est aux éditions La Thèse. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci à tous les trois. Merci vraiment de m'accompagner ce soir pour ce débat. Je voudrais que vous nous donniez d'abord la définition de l'éloquence. Qui se lance ? Martine Guillot.
Écoutez, oui, alors vraiment la vraie définition qu'il y a dans le dictionnaire, ou sur Internet, c'est l'art d'émouvoir et de s'exprimer avec aisance. Voilà, tout est dit. C'est quand même formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les émotions et puis il y a ce non-verbal, cette gestuelle, avec bien évidemment l'art de la rhétorique, le fond de la pensée qu'on a envie d'incarner pour restituer et faire entendre ses idées.
Alors on va détailler tout ça dans cette émission. Pourquoi et dans quelles circonstances est-ce si important l'éloquence, Stéphane André ?
La première chose qui est importante, c'est qu'on ne parle d'éloquence que dans la vie publique et non pas dans la vie privée. Heureusement, quand on parle à ses enfants ou quand on parle à son papa, c'est pas de l'éloquence, on est en famille. L'éloquence suppose que nous avons en charge un rôle préécrit, qui s'appelle un poste en entreprise, qui s'appelle un rôle au théâtre même. Et là, on est en charge de quelque chose. Et quand on est dans l'éloquence, on est sous un contrat, que je dirais presque civique. On a une responsabilité par rapport au rôle qui est plus grand que nous. Quand je suis enseignant, ce rôle est plus grand que moi. Et je dois monter à la hauteur du rôle et proposer ce qu'on appellerait au théâtre un personnage, qui serait en entreprise une fonction incarnée. Un professeur de mathématiques doit incarner les mathématiques. Et deuxièmement, la partie contractuelle, c'est aussi la responsabilité à l'égard du public, de l'auditeur et même du contradicteur quand on est en politique. L'autre est mon public lorsque je débat contre lui, même en politique, et je dois, vis-à-vis de lui, effectivement, faciliter son écoute au maximum. C'est à moi de m'adapter à lui, ça n'est absolument pas à lui de s'adapter à moi. C'est une charge d'orateur au service d'un dossier, au service d'un public. C'est une obligation quasi contractuelle. C'est pour ça qu'on a intérêt à bien parler en public, pour assumer ces deux responsabilités qui sont du service.
Alors, est-ce que ça veut dire que maîtriser l'éloquence, c'est mettre toutes les chances de son côté pour mieux réussir dans la vie, Bertrand Perrier ?
Oui, pour moi, l'éloquence, c'est assez simple. En réalité, c'est rendre intelligibles ses convictions et ses émotions. C'est les transmettre à l'autre et lui permettre de les comprendre. C'est uniquement ça. Après, dans le mot éloquence, il y a quelque chose d'une dimension esthétique de la parole qui, personnellement, ne m'intéresse pas beaucoup. Pour moi, c'est vraiment uniquement rendre intelligible à l'autre ce que je crois, ce que je ressens. C'est d'abord un échange. Et évidemment, cet échange, il est très important au moment essentiel de nos vies, qui passe par l'oralité. L'entretien de stage, l'entretien d'embauche, le dialogue personnel, sentimental, tout ça nécessite un dévoilement de soi, de sa personnalité, de son argumentation. Et donc, tous les grands moments de la vie passent aussi par la parole. Ils peuvent passer par l'écriture, mais il y a une dimension d'incarnation dans la parole qui permet davantage que la simple transmission d'une information.
Martine Guillot, dans votre livre qui est sorti hier, vous allez adorer prendre la parole, vous dites même que l'éloquence, c'est un sésame pour la vie.
Oui, c'est un sésame pour la vie parce que c'est très intéressant, en fait, quand on va à la boulangerie et qu'on demande une baguette, un pain, de voir qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et le sésame pour la vie, c'est que finalement, quand on a une idée, on a envie de l'incarner pour la restituer et la faire entendre. Et je crois que tout le monde a le droit de prendre la parole, que tout le monde a une pépite au fond de soi qui peut faire émerger, dont il a confiance, prendre confiance, Et en fait, c'est l'estime de soi, et on le garde ça tout le long de sa vie. On le travaille, on le met en œuvre pour que tout d'un coup, sa parole soit porteuse de vérité et d'authenticité.
Mais est-ce que tout le monde vraiment peut réussir à maîtriser l'éloquence, même les personnes qui sont extrêmement timides, par exemple, Stéphane
oui,
André?
Oui, absolument. Je ferai juste une nuance par rapport à ce qu'a dit mon camarade Perrier tout à l'heure. La notion d'esthétique est aussi importante. Je voudrais faire une mise au point sur ce qu'est l'art oratoire. Pour moi, l'art oratoire, ça recouvre l'éloquence et la rhétorique. Mais Cicéron a très bien expliqué que ce que faisaient d'instinct les hommes éloquents, d'autres après eux l'ont étudié, et ça a été les rhéteurs. Mais Cicéron dit, ça n'est pas l'éloquence qui est née de la rhétorique, mais la rhétorique qui est née de l'éloquence. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la parole en public, c'est la maîtrise de la pensée dans l'action. Et en même temps, c'est aussi l'esthétique. C'est pour ça que la notion d'art, pour moi, est très importante, parce que quelqu'un qui parle bien, ça a de la gueule, ça a de l'allure, c'est beau, et en même temps, c'est pertinent dans le sens où Bertrand Perrier vient de le dire, c'est se faire comprendre, évidemment.
Bien sûr.
C'est aussi une charge. Mais je pense qu'on peut allier les deux.
Ma question, puisque vous êtes tous les trois formateurs ici, c'était est-ce que tout le monde peut acquérir l'éloquence? Je le demandais même les gens les plus timides. C'est accessible à tous?
Moi, je crois qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire, qu'on vibre, qu'on a une pensée, on est tous créatifs. Moi, je suis une artiste, je suis comédienne, metteur en scène. Je suis arrivée à accompagner des gens un peu par hasard. Et c'est ça qui est formidable maintenant depuis pas mal d'années, que ce soit les politiques à l'Assemblée nationale ou le 440 en corporate. C'est tout d'un coup, qu'est-ce qu'on donne à voir? Qu'est-ce qu'on donne à entendre? Donc, n'importe qui peut. Après, il faut qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. Et donc, il y a cette prise de conscience de comment ça fonctionne et comment on peut se libérer de ce handicap ou de ces étiquettes ou de toutes ces plaques de tectonique qui nous empêchent, en fait, de respirer. Parce que, finalement, le cerveau droit, cerveau gauche, il est oxygéné aussi pour pouvoir être libre.
Mais vous le dites, effectivement. On va dans une classe de collège, de lycée, sûr qu'il y a des gamins qui adorent ça, c'est naturel, c'est festif, c'est joyeux, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. En réalité, moi je crois qu'il faut faire comme avec une échelle. Si vous essayez de grimper une échelle et que vous mettez le premier échelon à 3 mètres, vous ne grimperez jamais l'échelle. Donc tout le monde peut le faire, simplement, il y en a pour lesquels on aura des échelons qui seront un peu plus espacés, puis d'autres pour lesquels on mettra les échelons avec un peu moins d'espace. C'est tout. C'est juste une question de progression. Je crois absolument que tout le monde peut grimper l'échelle.
Vous évoquiez l'éducation. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, jusqu'à récemment, on négligeait quand même beaucoup l'oral. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le bac, l'oral était de rattrapage. Ça a marqué des générations, ça. Il fallait lever la main, il ne fallait pas trop parler, il ne fallait surtout pas être celui qui prend la parole tout le temps.
Oui, je crois que l'éducation française, depuis déjà très très longtemps, a mis l'accent beaucoup. Toutes les cultures ont abîmé la nature, mais notre culture a particulièrement abîmé l'oral. Parce qu'elle a dû se consacrer à autre chose, et c'est vrai que l'une des forces de la culture française, c'est la pensée logique. C'est la réflexion avant de parler, et c'est la constitution d'un discours. En revanche, dès l'âge de 5 ans, les enfants entendent « attention à ce que tu vas dire, t'as encore dit une connerie ». Et peu à peu, l'enfant apprend très rapidement que s'il veut prendre la parole, il a intérêt à faire gaffe. Il apprend ce qu'on appelle la peur. La peur est une donnée culturelle. Les enfants nord-américains l'ont beaucoup moins que nous. Ils ne sont pas élevés de la même façon. Donc, il y a évidemment quelque chose de difficile à traiter en Europe spécialement.
Bien, on va poursuivre ce débat dans un instant, ce débat passionnant. Vous me direz notamment quels sont vos modèles, en matière d'éloquence. À tout de suite. 19h32, c'est la suite de notre grand débat sur Europe 1. L'éloquence, voilà, je me trompe sur le mot capital de ce débat, ça ne va pas du tout. L'éloquence est un don de l'âme, lequel nous rend maître du cœur et de l'esprit des autres. C'est Jean de la Bruyère qui disait cela. Eh bien, l'éloquence, on continue d'en parler ce soir sur Europe 1. On a vu tout à l'heure combien ça nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre profession, notre ambition. Avec moi toujours ce soir, Martine Guillot, comédienne, coach et auteur de Vous allez adorer prendre la parole aux éditions Robert Laffont. Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris. Et Bertrand Perrier, avocat et formateur au sein du programme Eloquentia. Alors, on disait tout à l'heure que l'éloquence est importante à tous les stades de notre vie, mais là où on la remarque le plus, évidemment, on a commencé à l'évoquer, c'est en politique, dans les tribunaux, dans l'éducation, au théâtre. Est-ce que vous diriez qu'il ne peut pas y avoir de bons profs, de bons politiques, de bons comédiens, de bons avocats sans éloquence, Bertrand Perrier, vous qui êtes avocat, justement?
Ah oui, incontestablement, mais encore une fois, dans la définition de rendre intelligible une conviction ou une émotion, mais bien sûr que les enseignants, les avocats ont quasiment une obligation d'éloquence, puisque c'est une façon pour eux d'exercer leur métier. Nous exerçons nos métiers par la parole. Et donc, le juge a une écriture, bien sûr, qui lui est remise au préalable, mais il y a ce supplément d'âme qui ne peut être apporté que par la parole au moment de l'audience. C'est également la même chose pour les professeurs qui transmettent par la parole. Même s'il y a des livres, même s'il y a des supports écrits, c'est quand même par la parole qu'on fait vivre une matière. Et on l'a tous expérimenté. Il y a des profs qu'on écouterait pendant des heures,
et
puis
non,
à l'inverse, il y a des profs qui sont à saumon au bout de 5 minutes.
Bon, Stéphane André, vous l'avez comment évoqué tout à l'heure, hein, le résultat de l'éloquence, c'est clairement l'influence.
Oui, oui, c'est l'influence. Et cette notion de l'influence, c'est une grande question, ça. Parce que convaincre, ça ne veut pas dire vaincre des cons, si je puis me permettre, ça veut dire vaincre ensemble. C'est-à-dire que même un débat, on va convaincre, on va vaincre ensemble une question qui se pose, même à deux débatteurs adverses. Mais cette notion de l'influence, pour moi, elle est d'abord fondée sur le fait qu'on procure aux gens qui nous écoutent la chance de pouvoir vivre le projet que nous vivons nous-mêmes en parlant. Et notre parole est telle que celui qui l'entend a les mêmes émotions que nous et jusqu'à la fin du discours, il nous accompagne, il peut dire à la sortie « J'ai vécu exactement le projet dont cet orateur m'a parlé ». Et à ce moment-là, il peut très bien se dire « J'ai entendu quelque chose qui m'intéresse, finalement j'abandonne mon projet, j'adopte celui-là ». Il décidera en adulte, parce qu'il a vécu le projet en écoutant. Il n'a pas été séduit, il n'a pas été infantilisé.
Il a été convaincu.
Il a été grandi dans le projet que l'orateur devait incarner. Et c'est ça l'influence.
Oui.
C'est donner une expérience de vie au public, de vivre l'idée même que nous vivons nous-mêmes en parlant.
Et est-ce que c'est aussi être convaincu soi-même pour réussir à convaincre les autres, Martine Guillot ? Il ne faut pas faire semblant, non ?
Bah, écoutez,
sinon,
déjà,
ça se sent.
Moi, quand je travaille à l'Assemblée nationale pour les politiques, hein, c'est un peu compliqué parce que est-ce qu'ils mentent ou pas ? Non, il ne faut pas dire ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est si on est convaincu, on devient convaincant. Et donc, c'est comme ça qu'on porte son idée. Donc, effectivement, si on a le doute, ça s'entend. Donc, l'idée, c'est de porter au mieux sa conviction, ses émotions, son opinion, pour que celui qui est en face ressente quelque chose. Et donc, il y a du domaine du vibratoire, où tout d'un coup, on émet des idées, on transmet des messages, et il faut que l'autre en face puisse comprendre. C'est la conversation. On est quand même dans le domaine de l'échange. C'est ça, la communication. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ça passe par la posture, ça passe par le regard, ça passe par ses gestes, par ses doutes, par ses heurts de phrases. Moi, je suis une voix, donc la voix, les modalités, les inflexions vocales, les intentions, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, la voix, c'est une vraie sensibilité. On peut... Voilà.
C'est pas moi qui vous dirai le contraire.
Ah ouais, quelle
personnalité
matière
peut être citée comme un modèle d'éloquence ? Je vais vous donner des noms, tiens, vous allez me dire si vous les trouvez éloquents. Emmanuel Macron, par exemple, Bertrand Perrier, il est éloquent ?
Oui, il l'est, je trouve, plus en tant que président de la République qu'il ne l'était en tant que candidat. C'est plus un homme d'exercice du pouvoir que de conquête du pouvoir. Mais je trouve que d'ailleurs, il a évidemment pris des cours pour s'améliorer. Il a évidemment bien fait. Oui, je pense que c'est un bon orateur, oui, bien sûr.
Donald Trump, Stéphane André, éloquent, pas éloquent ?
Donald Trump, il a une caractéristique extraordinaire qui est le blindage facial. C'est-à-dire que c'est un type très contracté sur la face avant. Il a des yeux un peu comme derrière une meurtrière horizontale. Et c'est un type qui écrase tout au passage. C'est-à-dire, ce n'est pas un type qui reçoit le public, c'est un type qui écrase le public. Certains orateurs un peu tendus sur le haut du corps et qui sont un peu nerveux dans la partie haute du corps, un ancien président auquel je pense maintenant,
oui,
sont un peu de ce type-là. Et il leur
Nicolas
arrive
Sarkozy
très souvent d'être, par exemple, pas très aimable avec certains journalistes, qui est une façon aussi d'écraser certains publics.
Bien, on
une
adore la définition que vous faites de Donald Trump. La tension faciale, c'est très visuel. Fabrice Luchini, par exemple, Martine Guillot, éloquent.
Énormément.
C'est la référence, non ?
Bah ouais, parce qu'il est passionné, passionnant, parce qu'il y va, parce qu'il mouille la chemise, comme on dit au théâtre, parce que sa voix est géniale, parce que il a de la culture et il en joue pas, il n'est pas en posture haute. Donc il est généreux, voilà. Après, est-ce qu'il se renouvelle ? Oui, je pense, par rapport à tout ce qu'il a envie de faire dans sa vie, mais je le trouve magnifique et j'adore le timbre de sa voix.
Stéphane
André. Une
chose
sur Fabrice Luchini, c'est un élève de Jean-Laurent Cochet.
Ah oui.
Lequel Jean-Laurent Cochet est un élève de Jean Meyer, lequel Jean Meyer a été un élève de Louis Jouvet.
Bien.
Nous sommes avec Fabrice Luchini dans la tradition de l'art oratoire versant acteur, mais l'orateur est un frère, non pas jumeau, mais un frère de l'acteur.
Et alors Hitler, Bertrand Perrier, Hitler était-il un bon orateur ?
Mais tous les grands dictateurs sont souvent de très grands orateurs. C'est ce qui fait que la parole étant une arme, elle peut être mise au service des meilleures causes ou des pires. Et c'est la grande responsabilité que nous avons lorsque nous enseignons la prise de parole en public. C'est à la fois d'aider les gens à dire mieux leurs idées, à dire mieux leur personnalité. Après, ce qu'ils feront de ce que nous leur enseignons, nous n'en savons rien. Mais nous parions aussi sur le fait qu'en les sensibilisant aux techniques argumentatives et oratoires, on les aide aussi à décrypter ce qu'on leur dit, à ne pas prendre pour argent comptant. Donc il y a aussi une dimension citoyenne dans l'enseignement de la prise de parole publique. Mais il est bien évident qu'on ne sait pas ce qu'ils feront de l'arme que nous leur donnons.
Oui, parce que c'est une arme, effectivement, l'éloquence. Stéphane André, vous voulez
rajouter ? Je voudrais compléter ce qu'on vient d'entendre sur Hitler. Pour moi, Hitler est un orateur catastrophique. C'est un homme qui a un grand charisme. Incontestablement, mais on sait où peut déboucher le charisme sur le culte de la personnalité, donc beaucoup plus sur le service de la personne que de le service du rôle. Chez Hitler, vous avez des caractéristiques qui sont extrêmement nerveuses, tendues très face avant. Vous avez cette façon de répéter
comme chez
ses
Donald
gestes.
Trump, tendu chez face avant, comme chez Donald
oui,
Trump.
Oui, ouais. Ce sont des gens, ce sont des orateurs, et c'est pour ça que je parlais d'art tout à l'heure. La voix d'Hitler est un cri de souffrance de grand psychotique, mais ça n'est certainement pas un son harmonieux.
Et donc pas d'éloquence chez Hitler, si je résume.
Non, bon, sûrement pas. Je préfère la voix d'Obama ou la voix de Gaulle à celle d'Hitler.
Justement, les plus grands orateurs de l'histoire, selon vous, c'est qui ? Stéphane André, puisque vous êtes sur votre lancée.
Pour moi, de Gaulle a été un très grand orateur. Dans un tout autre style, Mitterrand a été aussi un très grand orateur.
Moi, j'ai beaucoup aimé, pardon de vous couper, Arlette Laguiller. Voilà, j'ai beaucoup aimé Arlette Laguiller. Voilà, je suis pas du tout de ce parti-là, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que avec sa voix de crécelle, parce qu'elle en avait une, elle avait des convictions et elle n'éructait pas pour éructer, mais elle portait à entendre un message. Et ça, moi, je trouvais son incarnation magnifique pour une femme. Elles sont rares et ça fait du bien.
On ne peut pas ne pas citer Christiane Taubira tout de même,
le
panthéon évidemment des orateurs et des oratrices, parce qu'elle allie l'improvisation, qui pour moi est vraiment la parole superbe et sublime, et puis le feu de la culture, et puis la conviction, l'originalité. En fait, parler, c'est pour ça que ça fait peur, c'est que c'est pas seulement dire un message, c'est dire une personnalité. Et ceux qui nous marquent, ceux dont on parle depuis quelques instants, ce sont ceux qui précisément sont reconnaissables entre mille et à l'instant où ils s'expriment. C'est pas les petits pois alignés, c'est vraiment ceux qui acceptent l'idée que parler, c'est dire d'abord sa différence, c'est dire sa singularité. Et c'est ça qui fait que l'écrit est plus confortable, parce que dans l'écrit, on a une deuxième chance, on peut raturer. Dans l'écrit, on n'est pas jugé dans l'instant, on donne une copie et puis elle sera lue à un autre moment, on n'est pas là. Alors que dans l'oral, c'est toute notre personnalité qui est mise en jeu.
On
c'est
est à nu,
notre
en fait,
regard, ouais. C'est notre posture et c'est dans l'instant.
Bien. Stéphane André, un
Christiane
dernier mot.
Christiane Taubira, je suis absolument d'accord. Ah. Absolument d'accord. Et ça permet de souligner quelque chose de très important dans l'art oratoire, qui est que l'improvisation, elle n'avait pas de notes, elle cite René Char, etc., elle fait un discours merveilleux, elle a le regard sur le public. Elle montre là un chemin à tous les élèves en art oratoire, quel que soit leur niveau. Partir du public et ensuite s'impressionner de lui, et à ce moment-là, intuitivement, on trouve les mots. Le premier allié d'un orateur, c'est son public.
Bien, restez avec nous dans un instant, on va vous donner justement des conseils pour réussir vous aussi à maîtriser l'éloquence. À tout de suite. Suite de votre débat en direct sur Europe 1, consacré ce soir à l'éloquence, avec toujours à mes côtés Martine Guillot, comédienne, coach, auteur de vous allez adorer prendre la parole aux éditions Robert Laffont, Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris, et Bertrand Perrier, avocat formateur au sein du programme Eloquentia. Il y a aujourd'hui de plus en plus de clubs et de concours d'art oratoire. Vous êtes tous les trois d'ailleurs formateurs. Je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne, parce qu'il y a des clubs de foot, figurez-vous, qui organisent pour les jeunes des centres de formation, des concours d'éloquence.
Formidable.
Bonsoir, Gédéon Elonga.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct, Gédéon. Vous avez 15 ans et vous avez remporté cette année le concours d'éloquence de votre club, le LOSC, à Lille. D'abord, félicitations. Racontez-nous comment ça s'est passé. Un jour, on vous a dit, tiens, on organise un concours d'éloquence. Est-ce que tu voudrais participer ?
Alors, au début, Sofiane Talbi nous avait parlé du concours.
Il
nous
c'est
avait
votre coach
pas précisé... Non, Sofiane Talbi, c'est notre éducateur qui était notre prof de SES à la fois. Mm-hmm. Et un jour, il nous a parlé du concours. Au début, on était pas très très chaud, quoi, parce que c'était pas notre domaine, etc. Donc, on appréhendait un peu. Mais au fil du temps, on a commencé à travailler ensemble avec Mohamed Slim de Prométhée. Pendant 4-6 mois, on a travaillé, on s'est attaché au truc et ça a commencé à nous plaire. Et au fur et à mesure, on a bossé pour au final faire la finale qui était il n'y a pas longtemps au Sébastopol.
C'est courageux, dis donc. Comment ça s'est passé au moment du concours, Gédéon?
Lors de la finale?
Oui, vous avez dû parler de quel sujet? Vous aviez un thème imposé?
Oui, voilà, on devait choisir entre deux thèmes qu'on nous proposait. Les thèmes étaient variés, il y avait possibilité de choisir des thèmes à choix, c'est-à-dire oui ou non, ou un sujet donné où on devait défendre.
Et vous, alors, vous avez choisi quoi?
Mon sujet, j'avais choisi « La pression était nécessaire à la performance ». Et je défendais la partie pour.
Oui.
Et voilà.
Bien. En quoi l'éloquence est-elle importante pour vous?
Alors déjà, pour moi, pour moi qui est footballeur, savoir parler, hormis le fait d'être sur le terrain, c'est important. Déjà, par rapport aux stéréotypes, pardon, qu'on entend en dehors du foot, comme quoi les footballeurs, c'est que le ballon, etc. Pouvoir, quand on nous entend parler, pouvoir savoir s'exprimer, ça montre aussi que dans notre tête, il n'y a pas que du ballon. Et hormis ça, pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est important de savoir parler, parce que quand tu sais parler, tu te fais entendre, on t'écoute. Quand tu sais pas parler, on prête pas vraiment oreille à ce que tu dis. Donc pour moi, la parole a un poids dans tous les domaines.
Oui, ça ne vous suffisait pas de savoir jongler avec le ballon, vous vouliez aussi savoir jongler avec les mots. Ils vous ont dit quoi, vos copains du foot, quand ils ont su que vous participiez à ce concours, ou votre famille?
Au foot, alors y a plusieurs catégories au centre de formation, et notre catégorie U16 était la seule à participer au concours. Et donc du coup, les autres catégories, ils étaient un peu chambreurs, voilà, ouais. Parce que s'ils s'attendaient à ce que on n'arrive pas à gérer le truc, parce que voilà, c'est pas un domaine où qu'on maîtrise, mais bon, on a réussi à montrer qu'on maîtrisait quand même. Et après, la famille, nos familles, nos proches, parce que ils étaient fiers de savoir qu'on allait faire ce concours, et ils attendaient beaucoup de nous, et je pense que ça nous a aussi motivés à donner le meilleur de nous-mêmes.
Merci beaucoup Gédéon Elonga, 15 ans, jeune footballeur au centre de formation du LOSC à Lille. La tête et les jambes, merci d'avoir été en direct avec nous Gédéon. C'est intéressant hein, ce témoignage, c'est la preuve que l'éloquence, bah, c'est vraiment important pour tout le monde, hein, Martine Guillot.
Bah écoutez, moi je suis aussi, j'interviens à la fac Paris-Saclay où j'ai créé le laboratoire, le savoir-être, où tout d'un coup, bien évidemment, on travaille la rhétorique, le fond du sujet, mais surtout comment on l'incarne, comment est-ce qu'on porte donc ce message. C'est des scientifiques, ils ont l'habitude d'être dans leur tronche, dans le cerveau droit, cerveau gauche, et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que d'incarner, de respirer, de restituer? Oui, on se rend compte que vraiment, s'ils n'ont pas cet art de dire, de communiquer, ils sont une échelle en dessous, et donc ils sont mal vus, quoi. Donc,
bon.
Ouais.
Puisque mais je trouve ça formidable ce que nous dit Gédéon, parce que les sportifs ont évidemment un rapport à la parole particulier. Et moi, j'invite tout le monde avec le football à regarder sur un réseau social, n'importe lequel, une causerie incroyable de Pascal Duprat, qui est entraîneur et qui va galvaniser ses joueurs par la force de son verbe. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'incroyablement charnel dans cette parole. Donc oui, bien sûr. Et puis souvent, c'est, je vous le dis pour vous, Gédéon, il y a un après la carrière sportive, et la capacité à parler, à s'exprimer, sera évidemment déterminante. Et ceux qui font les plus belles reconversions sont ceux, je pense à Bichente Lizarazu par exemple, ouais, qui maîtrise aussi l'art de la parole, ou Edgar Gaupiron, le champion de boxe, qui maintenant est conférencier. Et donc c'est vrai que c'est aussi le gage d'une reconversion réussie.
Alors, puisque j'ai trois spécialistes autour de moi, je voudrais que vous nous donniez des conseils, que vous donniez des conseils à nos auditeurs, pour tous ceux qui veulent gagner en éloquence, que ce soit dans la sphère privée ou dans le travail. Allez, conseil numéro un, qui se lance? Stéphane André.
Pour moi, le premier instrument qui doit intervenir quand on parle en public, c'est le regard.
C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui.
Qui est un instrument d'écoute. C'est à partir du moment où je m'imprègne d'une situation, on l'apprend au théâtre, la situation est première, disait Louis Jouvet, le maître de Lucchini, et à partir du moment où je m'imprègne de la situation, c'est s'impressionner avant d'impressionner. C'est le regard. Ce regard doit être un regard d'intérêt décidé sur le public. Et quand on s'intéresse au public véritablement, comme par hasard, le dos se place en verticalité. C'est-à-dire que le regard va amener le dos. Le dos droit va préparer la colonne d'air, va préparer la voix.
Et la voix, justement, Martine Guillot, ça c'est l'autre outil, hein, très important, que vous maîtrisez, vous, à la perfection.
Timbré, la voix, on a tous des voix différentes, c'est notre identité, c'est notre personnalité, c'est cette authenticité. La voix fonctionne grâce au diaphragme, cet outil respiratoire, comme un accordéon qui prend beaucoup d'air et du coup va donner aux cordes vocales, qui sont donc ces membranes, donc qui va faire vibrer et qui ensuite, par les lèvres, c'est pas très Covid, mais voilà comment tout d'un coup la diction se fait. Et donc, bien évidemment, moi je dirais, le plus important, c'est la respiration.
Donc vous apprenez, vous, à vos élèves à respirer?
Ah oui, à respirer, à comprendre ce que c'est que d'être fluide, de trouver en fait une décontraction, de faire descendre cette pression qu'on se met tout le temps et surtout cette non-confiance en soi. Finalement, on devrait avoir tous confiance en nous, ça c'est formidable. On a une pépite, ben on est tous différents et c'est ça qui m'intéresse, c'est la personnalité de chacun.
Alors bon, c'est formidable parce qu'on a les trois canaux. Oui. On a le non-verbal, c'est-à-dire exactement, le corps, le paraverbal, la voix. Et moi, je vais dire quand même le verbal.
Le discours, quand même.
Ah bah oui. C'est d'avoir le message, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai trouvé en fond de moi que je veux dire, et structurer. Vraiment, pour moi, le conseil majeur, c'est structurer votre pensée. Il y a un début, il y a des passages, comme dans un slalom, et il y a une fin. Voilà, structurer son propos pour qu'on puisse vous suivre.
Donc, on doit, par exemple, répéter quand on doit faire un discours important ou quand on doit s'adresser à son patron pour lui présenter un projet. Par exemple, on doit déjà structurer par avance, dans sa tête, se dire tiens, je vais commencer par ça, je vais enchaîner par ça et je vais finir par ça.
Oui, c'est très important, il faut avoir un plan, un canevas, pas avoir nécessairement écrit, mais avoir une première phrase, c'est là que c'est le plus engageant, le démarrage, et puis une fin, parce que là aussi, c'est la dernière impression, et puis entre les deux, avoir quelques points de passage obligés et se dire, voilà, je vais aborder tel sujet, puis ensuite tel sujet, et enfin tel sujet, et avoir vraiment une idée très claire de son message.
Et on fait attention aussi, j'imagine, à ces tics de langage, Stéphane André.
Oui, mais sans oublier qu'une préparation n'est faite que d'hypothèses. Et que la meilleure manière de retourner une salle, c'est de faire en sorte que le public co-construise avec nous le texte définitif. C'est-à-dire que parler en public, le génie dans la parole en public, c'est le génie du collectif. C'est-à-dire que c'est le rapport réussi par l'orateur physiquement avec son public qui va faire que le public va s'impliquer et que le discours est le résultat d'une rencontre. C'est ça qui fait que le public ne peut pas ne pas co-signer la fin du discours. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est le travail du corps. Au-delà de la préparation, parler en public ne consiste pas à dire ce qu'on a prévu de dire, mais à aller au-delà grâce au public, qui, lui, partie prenante, à ce moment-là, effectivement, est convaincu.
Il faut espérer qu'on réussisse effectivement à faire réagir son patron.
Moi, j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'on est tous des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on joue des personnages seulement, puisque ce n'est pas acteur de théâtre, mais on est acteur de soi. Et c'est comment, tout d'un coup, on va, quand on prend la parole, être un peu au-dessus, se mettre en scène, se mettre en selle, et allumer cette petite lumière intérieure qui amène donc cet acte de présence pour être ici et maintenant, vraiment à ce qu'on est en train de transmettre.
Ça, c'est bien ce évidemment qu'on dit quand on fait du yoga. Je suis ici et maintenant.
Ah ouais.
Pour maîtriser les silences aussi.
Ah bah ça, de toute manière, les pauses, les micro-pauses, la respiration.
Oui, le silence entendre fait partie de la parole, comme bah le ouais blanc fait partie de la peinture. Hein. C'est ce qui rassemble les ou couleurs et qui les rehausse toutes.
Bien. Ou en musique, les soupirs pour pouvoir comprendre sûr les attaques musicales.
Et les silences vont se maîtriser par le travail de l'œil, par le travail du regard justement. Parce que le regard fonctionne sur le silence comme sur la parole. Si j'ai un regard sur l'auditrice que vous êtes en ce moment en face de moi, je calme ma vie parlante sur votre vie écoutante.
C'est clair.
Et mes silences viennent tout seuls.
À qui on s'adresse ?
Parce que j'ai un regard. Parce ouais que j'ai un regard mmh sur vous. Autrement dit, l'erreur serait de dire « il faut faire des silences ». Ce qui est absurde. Ça va sonner faux, ça va être mécanique.
Ils viennent quand ils doivent venir, ces silences.
Voilà.
Merci beaucoup.
C'est du collectif. C'est du collectif d'abord.
Merci beaucoup à tous les trois. C'était un débat passionnant. Je pense que nos auditeurs envisageront désormais, je l'espère en tout cas, la prise de parole avec davantage de sérénité. Dans un instant, on ouvre les archives d'Europe 1. On va vous raconter le jour où le prince régné de Monaco épouse la sublime Grace Kelly. C'était en 1956. À tout de suite.